chers auditeurs, bienvenue dans ce 40e numéro d'En Spectateur, un numéro pour lequel je suis ravie de vous retrouver en direct du Théâtre Cantor, où j'essaye si souvent de vous emmener avec mes chroniqueurs. On ne change pas la formule, je vous parle avec mon équipe de l'actualité de notre partenaire En Scène, une actualité occupée par les deux spectacles de l'Atelier Théâtre de l'ENS, une troupe qu'on appelle La Vieille Branche. Nous reviendrons d'abord sur la pièce qui s'est jouée lundi et mardi dernier, Amadeus, mise en scène par Nadine Douriot. Puis je recevrai Séverine Puel, metteuse en scène de l'histoire du communisme racontée aux malades mentaux, à retrouver lundi 27 et mardi 28 avril. Ce sera en seconde partie d'émission. Mais pour l'heure, je vous présente mes chroniqueurs du jour. Un coin de son appart est décoré par une guitare et elle essaye de me faire croire qu'elle en a joué, Mathilde.
Bonjour.
Lui, là, il joue vraiment du corps à la radio et en orchestre, s'il vous plaît, Nicolas. Enfin, elle n'y connaît rien en musique, genre le degré zéro du solfège, ce qui est déjà mieux que moi qui suis au niveau moins un, Maëlys.
Bonjour.
Alors, la pièce dont nous parlons aujourd'hui et avec laquelle nous ouvrons ce numéro d'En Spectateur, c'est Amadeus, une pièce de Peter Schaffer que vous connaissez peut-être pour en avoir vu l'adaptation filmique de Milos Forman. Alors, déjà, est-ce que des gens autour de la table ont vu le film? Par exemple, Maëlys, est-ce que tu l'as vu?
Oui, j'ai vu le film.
Tu as vu le film?
Quelques années déjà.
D'accord. Toi, Mathilde?
Oui, je l'avais vu, j'avais beaucoup.
Et Nicolas?
Alors oui, j'ai vu.
Bon, alors je suis donc la seule ignorante qui n'ait pas vu le film avant d'aller voir la pièce. C'est pas grave. Donc pour ceux qui, comme moi, n'ont pas de culture cinématographique, ça peut arriver, chers auditeurs, je vous résume la pièce. La pièce, c'est l'histoire de deux folies. La folie d'un génie, d'une part, et la folie d'un envieux aussi. Le compositeur Salieri est sur le point de mourir. On s'en est au début du 19e siècle. Et il répète qu'il est l'assassin de Mozart. Lorsqu'il était plus jeune, il a demandé à Dieu de lui accorder un don pour la musique, en échange de quoi il serait vertueux et irréprochable toute sa vie. Et c'était avant de rencontrer le très jeune Wolfie, ou Wolfgang Amadeus Mozart, un compositeur de génie mais immature, impertinent et dévoyé. Forcément, Salieri ne comprend pas pourquoi Dieu a préféré donner le génie à ce dépravé de Mozart plutôt qu'à lui. Et débute alors une relation empoisonnée entre les deux hommes. Salieri faisant tout pour compliquer la vie et en même temps se rapprocher de celui qu'il est et par qui il est fasciné tout à la fois. Jusqu'à ce qu'une idée folle lui traverse l'esprit, commander à Mozart un requiem dont l'écriture est si douloureuse qu'elle achève de tuer le prodige. Avec l'alcoolisme, les déboires financiers et l'instabilité psychologique naturellement. Retour au présent et au vieux Salieri, lucide sur sa médiocrité de compositeur, qui se suicide, avec l'espoir qu'à la renommée de Mozart soit toujours attachée la sienne, lui, l'assassin d'Amadeus. Ce qui est plutôt raté, vu que je ne connaissais pas le compositeur Salieri avant d'aller voir la pièce. Bonne ambiance, hein ? Après une virgule, c'est Mathilde qui ouvre l'opéra des chroniqueurs, une virgule qui déménage, un peu comme cette biographie de Mozart.
Vous le savez peut-être, si vous êtes un fidèle d'un spectateur, ou peut-être le devinez-vous à mon air sadique, puisqu'il vous est enfin possible de m'admirer aujourd'hui.
Je confirme.
J'adore détester une pièce. Mais j'ai tout de même quelques restes d'intégrité en tant que critique, ou tout simplement en tant que spectatrice.
Ah bon ouais. Je n'y crois pas.
Ben oui, je m'efforce de ne jamais avoir d'a priori lorsque j'assiste à une représentation. Pour Amadeus, ça partait déjà mal. Avant même de me rendre au Théâtre Cantor, mon esprit était déjà saturé par l'enthousiasme. Et en sortant de la salle, ça ne s'arrange pas. Chers auditeurs, que dis-je pour l'occasion, chers spectateurs, mes co-chroniqueurs assis autour de cette table ne me croiraient pas une seconde si je ne reconnaissais pas aux acteurs et à la metteuse en scène un véritable génie comique. Je crois que c'est certainement la première chose que chaque spectateur qui a assisté à l'une des deux représentations vous dira. On passe rarement plus de 2 minutes sans rire aux éclats. Alors que bon, si vous êtes complètement étranger au pitch de la pièce, je peux vous le faire en express et vous verrez qu'a priori, c'est pas franchement l'éclate. Salieri est un médiocre adoré par les médiocres. Il rencontre Mozart et prend violemment conscience de sa médiocrité. Mozart n'est pas reconnu à la hauteur de son génie et, spoiler alert, meurt dans la pauvreté. Oui, voilà. Voilà, rien de très marrant, voilà. Par-delà, les personnages, somme toute bien réels, que cette pièce évoque, l'intrigue souligne la distinction absolument universelle entre le simple talent et le pur génie. Ce qui fait rire le public, c'est déjà le choix assez déstabilisant au théâtre de faire intervenir un narrateur. La pièce n'est alors, pour sa plus large partie, que la représentation de ce récit profondément façonné par la subjectivité de Salieri. D'où ce sentiment que ce qui se joue devant nous échappe tout à fait à la réalité pour n'être qu'un miroir déformant, joyeusement emphatique, des souvenirs du compositeur. Et tout le jeu des acteurs est teinté de cette tendance naturelle à tout surjouer, ce que d'habitude je me serais fait un plaisir de critiquer. Mais je l'ai dit, je ne peux que reconnaître que cette tendance à l'excès s'inscrit parfaitement dans la démarche du texte de Peter Schaffer et de la metteuse en scène. Bon alors, trêve de dithyrambe, il y en a marre décidément de ces bonnes pièces, c'est décidé, je revais mon habit d'avocate du diable. Parce que tenez-vous bien, il y a quand même quelque chose qui m'a un peu dérangée, un choix de mise en scène contre lequel je me soulève avec ce qui me reste de malveillance pour Amadeus. Bon voilà, alors je me demande bien pourquoi est-ce que ce jeu excessif et grotesque des acteurs est venu gâcher les quelques moments véritablement pathétiques de la pièce, qui étaient rares mais indispensables, je le crois bien. Alors par exemple, on fait le choix de représenter une femme victime de chantage, qui se résigne à subir un viol. On s'attendrait peut-être, je sais pas, à un silence pesant, à un regard vide, à de la sidération, et pas à une actrice qui se met à souffler comme un bœuf, alors sans parler de ses sanglots que dis-je beuglement lors de la mort de Mozart, qui se superpose au brillant monologue final du Salieri narrateur, tels des bruits parasites fort désagréables et loin d'être nécessaires. Alors pas d'attaque en particulière sur cette actrice, elle jouait son rôle à merveille lors des scènes plus comiques, plus légères. La preuve de cela, c'est que l'acteur qui incarnait ce cher Wolfgang, brillamment fantasque, tombait lui aussi dans une exagération quelque peu déstabilisante lorsqu'il s'agissait de feindre la maladie, la dépression, l'alcoolisme. Combien de fois s'est-il effondré comme un sac sur le sol de cette scène ? La performance est certes intéressante et louable, mais elle devient lassante lorsqu'elle devient le seul moyen d'exprimer le mal-être de Mozart. Vous m'aurez, je l'espère, comprise avec un texte aussi brillant, une mise en scène géniale, une troupe qui maîtrise l'humour prodigieusement, ce qui est presque incroyable de la part des acteurs, il faut le rappeler, amateurs, une scénographie souvent originale, toujours intelligente. Avec tout cela, on devient vite très exigeant, voire tatillon. Dire qu'on a aimé une œuvre d'art, quelle qu'elle soit, je pense que c'est... Et même, voilà, expliquer pourquoi on l'a aimé, je pense que c'est jamais facile. Et croyez-moi, faire la critique de cette pièce n'était vraiment pas une mince affaire.
Et on te remercie de t'être quand même prêté à l'exercice, Mathilde. Alors, on va revenir sur cette pièce avec mes chroniqueurs. Tu parlais au début de ta chronique du choix d'avoir un narrateur, alors, qui était le choix du dramaturge. On a donc deux espaces scéniques. On a toujours ce Salieri âgé qui ne quitte jamais l'espace scénique. Alors, c'est merveilleux, on est en train d'être content. Je vais pouvoir vous montrer où c'était, chers auditeurs, spectateurs. C'était ici, voilà. Et il y a un autre espace qui est celui que nous occupons actuellement, qui était un grand rectangle blanc, qui était le lieu du retour en arrière où évoluaient les personnages du passé, avec le Salieri narrateur qui était au pupitre à côté et qui racontait. Et il ne quitte jamais la scène. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce choix de mise en scène, de faire en sorte que jamais Salieri ne sorte, et du choix de ce grand rectangle blanc aussi ? Maëlys ?
Moi, j'ai beaucoup aimé parce que ça m'a...
Me souviens de ton enthousiasme, tu es arrivée disant « Oh, c'est déjà beau
!» Voilà, c'est qu'on avait vraiment une belle perspective dans la... Enfin, j'ai eu l'impression que la scène était beaucoup plus ouverte en profondeur que d'habitude. Ça avait ce côté flashback, en fait. Et on était vraiment emportés avec ce carré blanc-là, le tourbillon de personnages qui est arrivé, etc. On était vraiment emportés dans l'intrigue. Et c'était comme au cinéma, en fait. C'est l'effet que ça m'a fait. Ça m'a vraiment... je me suis dit... à chaque fois qu'on va voir une... Moi, en tout cas, dans mon cas, quand je vais voir une pièce de théâtre, à chaque fois, il y a toujours un petit moment de flottement dans la pièce où je me rends compte, en fait, que oui, je suis une spectatrice en train de regarder la pièce. Et là, ça ne me l'a pas fait, en fait. Donc, j'étais assez bluffée. On est vraiment emportés dans le...
D'accord. Et toi, Nicolas ?
Je suis complètement d'accord avec Maëlys sur ce choix de mise en scène qui était vraiment, vraiment, vraiment génial. Et surtout, en plus de ce que tu dis de la séparation du présent avec Salieri à l'extérieur du carré et le flashback, ce qui était intéressant, c'est que dans ces moments de folie, Salieri, justement, faisait irruption dans le passé. Il traversait ce carré blanc qui symbolisait vraiment ses souvenirs, sa mémoire. Et donc, ça rajoutait une dimension supplémentaire à sa folie et à sa présence sur scène, quoi. Il n'était pas toujours derrière son lutrin, en particulier quand il commençait à péter un câble.
Par exemple, qui est plutôt intéressant. Un avis, Mathilde ?
Justement, je pense que ça questionne énormément l'illusion dramatique, parce que ce à quoi on assiste, ce n'est pas réellement la scène, c'est la représentation de ses souvenirs. Et je trouve que ce qui était passionnant, et tu l'as souligné, Nicolas, c'était les moments où justement il faisait irruption dans ce passé, et on sentait vraiment à quel point la scène qui était présentée à nous était éminemment teintée de subjectivité.
Et moi, j'avais juste une dernière remarque sur le... Moi, ça m'a vraiment rappelé un écran de cinéma posé sur la scène, en fait, avec des personnages en 3D qui bougent dessus. Et c'est vrai que ça a le côté un peu...
3D théâtral.
Ah, mais alors, moi, finalement, ça m'a gêné quand je suis arrivée. Je me suis dit, ah bon, il ne va pas y avoir de mise en scène. Et moi, c'est toujours quelque chose que j'adore. Enfin, quand je dis pas de mise en scène, pas d'objet, pas de décor, c'est toujours quelque chose que j'adore dans une pièce. Et finalement, ça a permis que l'objet, le décor, soit rendu en fait par le narrateur. D'habitude, en effet, on a un espace scénique qui raconte quelque chose, qui sert de narration. Et là, c'était remplacé par le personnage de Salieri vieux.
D'accord. Alors, il n'y a pas que Salieri qui est narrateur. Enfin, je m'explique. Bien sûr que Salieri âgé est narrateur, mais il y a aussi des personnages qui reviennent très souvent dans la pièce, qui rapportent les événements qui se passent à Salieri, donc ce qui arrive à Mozart, ses déboires, etc. Ce sont les personnages des servantes qui reviennent très souvent, qui courent dans tous les sens avec de la nourriture ou sans nourriture, et qui arrivent avec leur cancan. Bon, sur Mozart, sur la cour, sur les opéras, etc. Donc on a encore le cliché des femmes bavardes, etc. Est-ce que, alors je sais bien que c'était c'est dans la pièce évidemment, mais est-ce que ce cliché toujours des femmes bavardes est agaçant ou est-ce que le procédé vous paraît recevable pour rapporter justement les nouvelles de Mozart à Salieri et aux spectateurs, Mathilde?
Question difficile. Je pense que ça peut. Ça me fait du mal de l'admettre, mais ça peut aussi peut-être refléter une réalité sociale de l'époque. Hein. Ces femmes.
C'était la Minute Histoire Moderne, sponsorisée par le Lara.
Voilà, exactement. Non, je pense que les femmes avaient de toute manière, je pense, un rôle privilégié dans la transmission des informations, même si parfois c'est plutôt des commérages. Je leur en veux pas particulièrement, ces personnages étaient extrêmement bien joués, intéressantes, je trouvais.
Et puis finalement, Salieri aussi, qui dirige ce petit groupe de femmes, il est exactement. Aussi bavard qu'elle. On le voit pas sur scène, mais c'est lui qui colporte les rumeurs à la cour, c'est lui qui détruit l'image de Mozart finalement par ses commérages, c'est pas ses servantes.
Et c'est lui qui s'en régale aussi de ses commérages, donc oui.
Maëlys, quelque chose à ajouter?
Après, c'est vrai que c'est plus au niveau de la distribution, du coup, parce qu'on avait tous les acteurs masculins qui jouaient les personnages importants de la cour. Donc certes, aussi, ça représente une réalité sociale de l'époque, mais on avait aussi une fille qui jouait un homme à un moment.
Oui.
Je me souviens, c'était celle qui annonçait les ordres royaux, etc. Donc c'est vrai que peut-être au niveau de la distribution, ça aurait peut-être pu se discuter, en fait, cette répartition-là, avec toutes les actrices qui jouent les servantes et les acteurs qui font les...
D'accord. Alors, tu parlais des deux rôles principaux, notamment qui sont des rôles masculins. Alors voilà, on a deux héros négatifs dans cette pièce. On a Salieri d'un côté, Mozart de l'autre. On va commencer par Mozart. Moi, je vous le dis tout de suite, chers auditeurs, le personnage m'a un peu énervé parce que voilà, il a ce côté très immature. Mais voilà, je peux admettre qu'on soit séduit aussi. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce personnage, de la manière dont il était joué? Est-ce qu'il était détestable? Est-ce qu'il était attachant? Est-ce qu'il était séduisant? Nicolas ?
Le personnage lui-même est détestable. Je pense que c'est la volonté de l'auteur de la pièce et ça se retrouve énormément dans le film ensuite. Ça, c'est clair. Alors après, moi, j'ai adoré l'acteur personnellement qui avait un véritable talent pour rendre ce personnage de Mozart et nous le rendre odieux et immature. Et finalement, le fait qu'il soit comparé à Salieri, je pense qu'on va parler de Salieri après, mais ce personnage qui lutte pour réussir dans la vie et qui nous raconte son histoire de manière vraiment pathétique, ça nous rend encore plus odieux, ce personnage de Mozart qui arrive à tout du premier coup et qui se noie dans l'alcool de manière vraiment égoïste et immature. Voilà, c'est vraiment l'immaturité, le point clé, je pense, du personnage de Mozart qu'on a vu.
Sur le caractère détestable de ce personnage, je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il y a ce filtre de la subjectivité de Salieri, et je pense que ça n'aurait pas été un très bon choix de le représenter autrement, parce qu'il y avait cette représentation qu'avait Salieri de Mozart. Donc en fait, on le voit peut-être pas tel qu'il était réellement, on le voit tel que Salieri se le représente. Je pense que ça explique pourquoi on exagère énormément ses rires énervants. Peut-être que ça agace tellement Salieri qu'il y a ce choix de mise en scène d'exagérer sur ses rires aussi.
Son orgueil aussi démesuré qui apparaît tout le temps, en particulier quand il est en train de parler à Salieri et qu'il dit « je suis le meilleur », c'est vraiment à Salieri qu'il le dit. Il ne le dit pas directement à l'empereur, il le dit à sa cour,
Séverine, je vous vois hocher la tête. Vous avez peut-être quelque chose à dire, par exemple, sur le personnage de Mozart, si vous avez
Je pense que moi, je vois Mozart, enfin, quand Schaeffer le représente comme une star du rock'n'roll, en fait. Il boit, il fait la fête, il couche avec plein de filles, il est très sûr qu'il est le plus beau.
Il a un gosse, fort. Ça, c'est pas très rock'n'roll. Oh, mais il l'élève de manière rock'n'roll.
Je pense que les problèmes d'argent, et puis la conviction qu'il est le plus grand génie de son temps et qu'il le fait savoir haut et fort. Voilà, et c'est ce côté, je pense que Schaeffer, il écrit, le parti pris de l'auteur, et de le mettre dans les yeux de Salieri pour en faire un personnage absolument iconoclaste et un peu dépoussiéré aussi par rapport à l'image qu'on peut avoir de Mozart, le dieu de la musique.
Éthéré.
Voilà.
Quelque chose à ajouter, Mélisse ?
Enfin, moi, je ne suis pas une spécialiste de Mozart, mais il me semble que...
Scandale. Tu es virée.
Toutes les blagues scatologiques...
On va y revenir.
C'est fondé dans... Enfin, on les a retrouvées dans ses lettres, on les a retrouvées dans ses...
Oui, je pense que le travail de Schaeffer est extrêmement documenté. Hein.
Alors, donc, on a parlé de Mozart. Alors, je vais vous faire voter. Vous êtes plutôt Wolfie ou plutôt Salieri? Ou est-ce que vous vous abstenez aussi? Vous avez le droit de dire que vous détestez les deux. Faisons un tour de table. Alors, Séverine, si vous voulez vous réexprimer.
Je vote aussi.
Oui, ou vous pouvez vous abstenir.
Mais je pense que j'ai une tendresse pour le besogneux Salieri, finalement.
Hein. Bah, je pense que moi aussi, mais après, aller s'identifier à Mozart, ce grand génie de la musique, voilà, c'est assez difficile,
en fait.
Il est tellement sur un piédestal que...
On attend ton tour, Marie.
Bah oui, moi, avec ma guitare, je m'identifie tout à fait à Mozart. Non, je partage vraiment cette... cette complicité avec Salieri, je pense que toute la mise en scène nous invite à le faire de toute façon.
Moi, je suis particulièrement complice avec Salieri, avec cette histoire de tarte au mascarpone qui m'a fait envie de toute la représentation.
C'est pas faux. On va passer ces petits gâteaux là, c'est terrible. On a presque envie que les servantes en mangent parce qu'on se dit non, mais c'est gâché, faites quelque chose. Non, c'est vrai que moi aussi, je suis plutôt Salieri parce que voilà, c'est un personnage que j'ai trouvé assez attachant quand même. Je vois en quoi on peut le détester aussi. Il y a quand même tout ce filtre qu'il impose aux spectateurs, surtout. Mais voilà, sa médiocrité est intéressante. Alors, il y a beaucoup de musique dans la pièce, évidemment. Ça aurait été un scandale sinon. Donc, elle accompagne quand même beaucoup. Alors, je ne sais pas si c'est prévu dans la pièce de théâtre, si c'est expressément mentionné par le dramaturge. Mais en tout cas, on l'entend beaucoup dans l'adaptation qui a été faite ici dans ce théâtre Cantor. Est-ce qu'il a été fait bon usage de la musique selon vous, Nicolas, ton corps à la radio?
Mon corps à la radio. À mon avis, oui. Tout simplement, je pense qu'il y a quelque chose qui ne trompe pas, c'est qu'en sortant, j'avais envie d'écouter du Mozart. Après, les extraits sonores étaient évidemment bien choisis, ils correspondaient évidemment à ce qui se passait quand il y avait des représentations de Mozart. Ils correspondaient bien à l'état d'esprit de Salieri quand ils servaient à illustrer une émotion de Salieri. Et vraiment, alors moi j'ai beaucoup aimé, je reviens à l'acteur qui jouait Mozart, qui dirigeait vraiment, je pense qu'il y a eu beaucoup de travail sur ces scènes où il dirige son orchestre, où il était vraiment possédé par la musique et où on comprenait vraiment ce que Salieri voulait dire avec ce dieu qui donne à Mozart sa musique et qui joue à travers Mozart. On avait l'impression que Mozart était un espèce de pantin qui faisait communiquer cette musique à travers lui. Et du coup, le travail entre... Finalement, cette musique, elle n'était pas juste illustrative, elle faisait complètement partie de la mise en scène de la vieille branche. Et du coup, je pense que dans ce sens, c'était un très bon usage de la musique de Mozart.
D'accord, et je tiens à rappeler pour les auditeurs que la personne qui s'occupait de lancer la musique en régie, justement, a été obligée de remplacer la personne qui était censée le faire au début, à peine quelques jours avant le spectacle. C'était quand même quelque chose d'assez impressionnant.
C'était totalement transparent.
Voilà. Alors, c'était quand même fondamentalement une pièce comique, même si Mathilde l'a dit dans sa chronique, il y avait des passages pathétiques aussi. Alors d'abord, l'humour. Est-ce que vous êtes amusé? On sait que Mathilde, oui. Est-ce que tout vous a amusé, même l'humour pipi-caca? Là, j'ai l'impression de refaire la critique de It's Coming, mais c'est pas grave. Alors recommençons. Maëlys, l'humour de la pièce.
Moi, ça m'a plus... Alors, par rapport à It's Coming, parce que c'est ça qui avait fait débat sur cette pièce.
Le scandale.
Là, j'ai plutôt aimé parce que c'était... c'était inspiré d'une réalité historique. Enfin, moi, je l'ai interprété comme ça. Et dans le film, c'est exactement ce même type de blague, ce même type d'humour, etc. Et c'était plutôt par fidélité que par... par fidélité voilà, à la pièce, etc., que par... c'était pas vraiment utilisé comme un ressort comique, moi, j'ai trouvé.
Oui, et finalement, c'était plus un ressort comique, dans le sens où on rigolait pas de cet humour-là. Voilà. On rigolait du fait que Mozart fasse de ce genre de blagues.
Et alors, les scènes pathétiques, moi, souvent, je les ai trouvées comiques aussi, quand même, un peu. Ça m'a fait rire, je l'admets. Peut-être que je suis sans cœur, allez savoir. Peut-être que c'était malgré elle. Est-ce qu'à votre avis, il fallait que les scènes pathétiques soient drôles, elles aussi? Je pense par exemple, ne serait-ce qu'au final dantesque, juste avant la grande envolée lyrique de Salieri, quand on entend par exemple les gémissements de la femme de Mozart qui continuent.
Alors justement, Nicolas, tu as quelque chose à moi, oui, ça me fait réagir parce que j'ai entendu du coup ta chronique, Mathilde, et on m'en avait parlé à l'avance, et j'ai pas été voir la pièce le même jour que vous. Je suis allé à la deuxième représentation. Et ça ne m'a pas du tout fait l'effet que tu m'as dit par rapport à l'actrice qui jouait Constance. Donc en effet, cette scène de viol, je l'ai pas trouvé particulièrement mal jouée. Et ce final, cette mort de Mozart, m'a beaucoup ému. Vraiment, j'ai trouvé que le jeu était très juste, était très très réussi. Apparemment, tu l'as dit hors antenne, je ne sais pas, que finalement ces gémissements qui continuaient par-dessus la tirade de Salieri l'a gâchée complètement, alors que moi, elle ne gémissait plus pendant la tirade. On entendait de faibles sanglots qui continuaient pour signifier que l'action continuait, mais ce n'était pas du tout gênant. Alors, je pense que vraiment, il y a eu une grosse différence de ce point de vue-là entre les deux représentations.
C'est fort probable. Après, est-ce que c'est moi qui ai trouvé qu'elle gémissait trop fort et qu'elle criait même
Mais Maëlys, c'est ce que toi qui étais voir le même soir que
moi,
nous...
Moi, en fait, je m'attendais... Enfin, j'ai pas trouvé ça pathétique. Enfin, je suis peut-être une grosse cynique, mais pour moi, Salieri, c'est vraiment une victime de l'histoire qui s'est retrouvée face à Mozart, un génie incontesté, voilà, comme il en sort, un musicien comme il en sort tous les 2000 ans presque, je dirais. Mais enfin, j'exagère peut-être un peu. Mais du coup, j'avais peut-être un espèce de recul comme ça. Oh, le pauvre, et pas du tout. Enfin, voilà, c'était Mozart qui meurt, etc. Et il y avait un peu d'humour noir, moi, j'ai trouvé derrière. Et enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Du coup, le côté, le débat pathétique comique, ça m'a pas particulièrement choquée. Enfin,
D'accord. Mais, Alors, une question de conclusion pour vous trois. Si je vous remène au grand opéra de la vie de Mozart et de Salieri, est-ce que vous y retournez avec moi, Nicolas?
Ah oui, complètement. Surtout que j'ai pas eu le plaisir d'y aller avec toi la semaine dernière.
Faillot. Mathilde,
avec un très grand plaisir.
Et Maëlys.
C'était vraiment très agréable comme pièce. Un très très bon moment.
Merci à tous les trois. Chers auditeurs, restez avec nous. À suivre dans En Spectateur, l'histoire du communisme racontée aux malades mentaux. Je reçois maintenant Séverine Puel, metteuse en scène de l'autre pièce de La Vieille Branche, dont vous avez pu entendre la voix déjà, chers auditeurs. Bonjour Séverine.
Bonjour.
Alors, donc, j'ai une première question à vous poser, d'abord une question pour vous présenter. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots pour vous présenter, pour présenter votre parcours, s'il vous plaît?
Alors, je suis comédienne depuis une vingtaine d'années, comédienne donc professionnelle, et en fait j'interviens auprès de la troupe amateur de l'école normale supérieure depuis à peu près aussi longtemps en fait. Ça a commencé par des élèves qui sont venus nous trouver, moi et un autre comédien qui à l'époque lui travaillait à la bibliothèque de l'école. À l'époque il n'y avait que le site Mono. Et c'était des élèves qui voulaient faire du théâtre et qui n'avaient plus, en fait, dans leur troupe d'anciens de l'école assez expérimentés pour les aider à mener les projets. Donc, ils avaient essayé une année, ça avait un peu cafouillé. Et donc, ils sont venus s'adresser en demandant, à l'époque, un regard extérieur. Ils ne voulaient pas de metteur en scène, ils ne voulaient pas de prof, surtout pas de prof. Et donc, ils voulaient un accompagnement. Et nous, on était jeunes comédiens en train de se professionnaliser. On intervenait déjà en préparation d'échauffement corporel, justement, sur un cours en ville, dans un petit théâtre. Et donc, on a commencé comme ça.
D'accord.
Et j'y suis toujours.
Vous vous êtes fait traquenarder, en fait.
Oui. Mais c'est une très belle expérience. Et je pense que je grandis, je mature en même temps que les étudiants.
D'accord. Alors, la question traditionnelle que je pose à tous mes invités, Qu'est-ce que vous nous jouez lundi et mardi prochain?
Alors, lundi et mardi prochain, ce sera l'histoire du communisme racontée aux malades mentaux de Matei Vichniec, qui est un auteur roumain, qui vit en France depuis 1988, qui a quitté la Roumanie juste avant l'effondrement du bloc communiste, et qui, à son arrivée en France, a choisi de quitter la langue roumaine pour écrire et pour se mettre à écrire en français. Donc il avait déjà 31 ans à l'époque, et il a choisi le français comme langue d'écriture. Donc un procédé assez original.
D'accord. Et que raconte la pièce?
Alors la pièce, ma foi, c'est un auteur officiel envoyé par l'Union des écrivains russes qui est envoyé à Moscou, dans l'hôpital psychiatrique des malades mentaux de Moscou. On est en 1958. Et il est envoyé pour soigner, je pense, soigner par la parole, par le discours, les malades mentaux. Le directeur pense que l'histoire du communisme et de la grande révolution socialiste d'octobre, racontée en mots simples, puisqu'il faut s'adapter aux malades mentaux, va les guérir de leur maladie mentale.
D'accord. Alors, la première fois que je suis allée lire le pitch de la pièce, je me suis dit très naïvement « Ah là là, c'est un auteur dissident du XXe siècle qui dénonce le stalinisme sur le mode de la farce, oh là là, quelle belle idée !» Bon, j'étais complètement à côté de la plaque, c'est une pièce de 1998. Mm-hmm. Qu'est-ce qui motive à jouer cette pièce en 2015?
Alors, qu'est-ce qui motive cette pièce? D'abord, mon grand amour pour Matei Vichniec. On avait déjà monté avec ce qui s'appelait à l'époque, on y reviendra, la branche bâtarde. On avait monté Richard III n'aura pas lieu il y a quelques années, qui parlait d'un metteur en scène, Meyerhold, qui est soumis à la censure en voulant monter Richard III. Et voilà, j'aime beaucoup l'absurdité et la folie de Matei Vichniec. Et quand j'ai trouvé cette pièce avec autant de personnages, parce que la contrainte de travailler avec l'atelier de pratique amateur, c'est de pouvoir intégrer tous ceux qui veulent y venir. Donc là, cette année, ils sont 17. Et donc, il fallait une pièce avec beaucoup de personnages. Et puis, ben, y a une folie, il y a un humour, il y a du jeu. Et il y a un propos et pourquoi pas une petite page d'histoire. Et ça ne nous fait pas de mal.
En effet, c'est pas moi qui vais dire le contraire, je suis historienne. Alors, donc, vous nous promettez quelque chose de comique?
C'est un parti pris, le texte est comique, je ne sais pas, on va tout faire pour être à la hauteur de l'humour de l'auteur. Après, elle n'est pas que comique, mais essentiellement, on est quand même dans un registre d'une farce, d'un délire, en fait. On est aussi, quelque part, dans la tête de... Amadeus était dans la tête de Salieri, et là, je pense qu'on est un petit peu dans la tête de Yuri Petrovski, quelque part.
Vous parliez de la contrainte d'avoir un texte qui implique suffisamment de personnages pour intégrer toute la troupe de l'atelier théâtre. Alors, on a très peu parlé de cette troupe pour le moment. Déjà, combien d'apprentis acteurs est-ce qu'elle compte, et comment est-ce qu'ils se sont répartis les rôles?
Alors, pour le projet que je mène, ils sont 17. Le projet avec Nadine Douriou, ils étaient 14 ou 15, je crois. Je
sais, vous êtes encore faites traquenarder?
Oui, ça, je sais pas, qu'est-ce que je fais. Non, mais... et puis, c'était... alors, ils ont choisi le texte sur lequel ils avaient envie de travailler. En début d'année, on a fait des lectures. Nadine a proposé deux projets au choix. Non, Nadine, elle était sur Amadeus, elle avait que ce projet-là. Moi, j'ai proposé deux textes, donc celui-là ou 12 hommes en colère de Reginald Rose. Et après des lectures, on a choisi, enfin, les élèves ont choisi celui-là. Et puis après, sur la distribution, par contre, c'est moi qui l'ai faite. Traditionnellement, c'était les élèves qui choisissaient leur rôle. Et puis ces dernières années, ça a donné lieu à des malentendus. Enfin, c'était compliqué, ça posait des problèmes dans les équipes. Donc j'ai choisi de modifier ça. Et donc on fait des lectures pendant pas mal de temps. Et à la suite des lectures, je propose une distribution dont on peut discuter, mais personne n'a discuté.
D'accord. Donc vous ne vous faites pas toujours traquenarder, à ce que je vois.
Voilà.
Alors on sait que la branche bâtarde a des difficultés en ce moment. Est-ce que vous voulez bien revenir un peu sur son histoire? Alors déjà, qu'est-ce qu'il faut dire? Est-ce qu'il faut dire atelier théâtre, vieille branche, branche bâtarde? Il y a beaucoup de dénominations. Ou prapara.
Je ne sais pas, on pourrait parler la vieille branche bâtarde. Alors,
c'est aussi long que
c'est appelé à ses tout débuts, je crois, tout simplement le club théâtre. Il n'y avait pas de nom particulier. En fait, il n'y avait pas de nom. Et puis, au moment de l'intégration, de la fusion des deux écoles et de l'intégration du club théâtre en scène, il a fallu trouver un nom. Et là, ça ne s'est pas très bien passé au tout début. On a eu des petits,
des petites défiances entre les deux écoles, et notamment des personnes de l'époque d'enseigne qui pensaient que l'atelier théâtre joué par des scientifiques était probablement un théâtre fort médiocre, et que donc ce serait la branche bâtarde d'enseigne. Donc les étudiants de l'époque se sont jetés sur l'occasion de dire « Très bien, nous serons donc la branche bâtarde ».
Et alors, voilà. Quelle perspective pour cette branche bâtarde ?
Eh bien, voilà. Donc, la branche bâtarde, après, a évolué. On est un peu sorti des conflits interfilières. Et aujourd'hui, notre vieille branche est un petit peu en difficulté, effectivement, parce que donc, Nadine et moi, on est deux intervenantes professionnelles, ce qui implique du salaire. Et le budget d'enseigne étant en réduction, ben, on a un peu du mal à boucler les budgets. Donc cette année, on a fait appel à du crowdfunding pour... les étudiants sont occupés de tout ça. On remplit des demandes de subventions auprès du CROUS, auprès de la région. C'est assez complexe. Et les adhésions sont devenues payantes. Les représentations aussi, au chapeau, mais payantes. Donc on cherche des solutions un peu plus pérennes. Et là, on est en train de réfléchir... Enfin, eux sont en train de réfléchir au mécénat. Et cherche des partenariats avec des entreprises, des commerces du quartier. Enfin, toutes les pistes sont bienvenues. Si quelqu'un qui nous écoute a une idée brillante, nous prenons. Et voilà, ce sera un peu l'avenir. C'est ça qui va décider un peu de l'avenir. Est-ce qu'on peut continuer à monter deux projets par an ou pas ?
D'accord. Voilà. Eh bien, on espère vraiment pour vous. Merci d'être venue répondre à mes questions, Séverine. Chers auditeurs, n'oubliez pas de réserver vos places bien en avance. Les spectacles de la vieille branche sont toujours littéralement assaillis par les spectateurs.
C'est complet mardi, hein, déjà.
C'est complet. Alors voilà, ça se passe pour lundi sur le site enscène.org. L'histoire du communisme racontée aux malades mentaux. Une pièce de Matthieu Vichniec sur une mise en scène de Séverine Puel avec la vieille branche les 27 et 28 avril, toujours dans ce théâtre. Chers auditeurs, c'est la fin de ce numéro d'En Spectateur. Je vous remercie de l'avoir suivi en direct, en Cantor ou sur notre site internet. Je remercie notre invité du jour, Séverine Puel, ainsi que mes chroniqueurs, Maëlys la Scandaleuse, Nicolas le Fou et Mathilde la Grivoise. Surtout, je dédie ce numéro à Clément, Aurore et Agère, que j'aurai le plaisir d'aller applaudir mardi prochain, j'en suis certaine. On se retrouve très vite pour le retour critique sur l'histoire du communisme racontée aux malades mentaux. Et d'ici là, surtout, n'oubliez pas d'aller au théâtre, à l'opéra ou au ballet. Bref, n'oubliez pas de vivre en spectateur.